La Première, podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Et avec Caroline Veit, on va donc prendre maintenant un petit cours d'histoire de l'art et convoquer quelques grands noms des 19e et 20e siècles. Caroline, Gauguin, Signac, Dali, Miro, Matisse, Calder et bien d'autres encore.
Ben oui, énormément de grands noms effectivement qu'on redécouvre dans l'exposition de Gauguin à Calder, La couleur au 20e siècle, à voir au château de Waroux à Anse. C'est le commissaire de cette exposition que nous avons rencontré, Jean-Christophe Hubert. Et assez logiquement, la première question qui me taraudait, c'était pourquoi avoir choisi la couleur comme fil rouge de cette exposition. Écoutez sa réponse.
Alors forcément, ça s'insère dans un programme assez vaste qu'on a entamé au château de Waroux depuis plusieurs années, de faire un petit peu découvrir les grandes thématiques de l'art. Et je dirais que dans les dernières expositions, c'est un petit peu concentré sur le 19e siècle, et notamment le mouvement impressionniste. Et il y avait eu un très bon accueil de la part du public scolaire, de toutes les équipes pédagogiques. Et il y avait vraiment une volonté d'insérer une nouvelle exposition dans une suite, ouais. En disant, ben oui, voilà, un mouvement qui a été très important. Et qu'est-ce qu'il a pu donner dans les décennies qui l'ont suivi. Et donc voilà, cette exposition s'insère vraiment là-dedans, d'expliquer un petit peu tout ce qui a suivi le mouvement impressionniste à partir des portes qu'il a ouvertes.
Alors le tournant du 20e siècle a visiblement été un moment charnière pour l'histoire de la couleur, on va y revenir. Mais jusqu'à la fin du 19e, généralement, comment est-ce qu'on l'utilisait, la couleur ?
Alors forcément, la couleur a été pendant de très nombreux siècles, pas seulement au 19e, mais même avant, a été vraiment au service du dessin. Donc il y a toujours cette opposition, enfin ce n'est pas un combat, ce n'est pas une opposition, mais il y a toujours des grandes caractéristiques lorsqu'on étudie des tableaux, c'est bien entendu l'examen du dessin, du sujet, de la perfection de cette représentation, de la perspective, etc. Et alors la couleur était un petit peu toujours subordonnée à ce dessin et venait finalement l'enrichir. Alors ce qui s'est passé forcément avec le mouvement impressionniste et avec surtout ce qu'on sait moins et sur lequel il faut insister, c'est tout l'environnement du mouvement qui n'apparaît pas à un moment anodin, il apparaît à un moment charnière au point de vue de l'histoire des techniques. On invente par exemple le tube de couleur. Il y a toute une série d'innovations techniques qui apparaissent. C'est l'invention de l'appareil photo qui va au final être pour les artistes quelque chose d'assez effrayant, mais qui au final va je dirais, évoluer parallèlement à eux. Et effectivement, ces inventions, et je pense notamment à l'appareil photo, plus tard encore le cinéma, ça va être pour eux quelque chose d'assez important puisqu'un appareil va pouvoir dessiner, je dirais, entre guillemets, et rendre le plus fidèlement possible ce qu'on a devant les yeux. Et donc, tout cet environnement de technique, d'invention du 19e siècle va influencer ces artistes qui vont finalement vouloir donner un nouvel élan à la peinture. Et alors, forcément, là, il y a quelque chose qui va se passer puisque le duel dessin-couleur va s'inverser et c'est effectivement la couleur qui va maintenant dominer le dessin, qui sera finalement pas très important et qui va même, on va le voir quelques décennies après, même parfois totalement disparaître.
Oui, donc un vrai mouvement charnière avec l'impressionnisme. C'est donc cette période-là qui va débuter cette expo sur la couleur du 20e siècle ?
Oui, tout à fait. On débute vraiment à ce moment-là et on essaye d'expliquer aux visiteurs qu'à ce moment-là, finalement, il y a toute une série de choses qui se mettent en place et qui vont durer jusqu'à nos jours. C'est aussi les artistes qui travaillent de moins en moins, voire plus du tout, sur base de la commande, mais qui doivent vendre leurs tableaux dans des salons, dans des galeries. C'est aussi d'un nouveau métier qui apparaît, celui de galeriste, celui de critique d'art. Donc c'est toute une démarche totalement nouvelle. Et forcément, lorsqu'on examine un petit peu ces tableaux de près, c'est la couleur qui est le point de départ. Cette émancipation de la couleur par rapport à toute son histoire antérieure et qui va très vite évoluer puisque nous sommes déjà au tout début du 20e siècle, l'art abstrait apparaît par exemple.
Oui, complètement. Alors tant qu'on est dans l'impressionnisme ou le post-impressionnisme, est-ce qu'on peut rappeler quelques grands noms de cette période-là ou en tout cas des noms qui se trouvent dans l'exposition qu'on peut voir au château de Waroux ?
Alors forcément, on évoque l'impressionnisme sans le montrer. Puisque je dirais qu'on débute juste après, donc forcément on évoque la grande génération de Claude Monet, de Renoir, etc. Mais on évoque surtout ceux qui vont suivre, qui vont prendre le flambeau. Et la première personnalité que les visiteurs découvrent, avec notamment des magnifiques pastels, c'est Paul Gauguin, qui est dans cette génération, finalement, qui suit. On est toujours dans la représentation de ce que l'on voit, mais effectivement, on voit que la couleur est de plus en plus exacerbée et on voit que la couleur est utilisée pour sa force et non pas pour simplement la représentation fidèle qu'elle peut donner. Effectivement, tous ces post-impressionnistes dont font partie, par exemple, notre ami Vincent Van Gogh, par exemple, qui est évoqué, c'est vraiment toutes ces générations-là. Et alors, dans les œuvres de l'exposition, on a Signac également, qui est illustré avec notamment ces magnifiques aquarelles des ports de France. On évoque également Henri Matisse avec le fauvisme, tous ces mouvements qui vont suivre, je dirais, rester fidèles à l'image du paysage que l'impressionnisme a développé, mais qui vont de plus en plus utiliser la couleur pour eux-mêmes.
Oui, pour moi, là-bas où je suis né, la ville, ou comme en ce moment la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Et je ne peux pas m'exprimer bien. Mais maintenant, comme je suis loin de ma ville natale, il y a déjà 50, 60 ans, et elle est en nous, cette couleur. Elle s'est mêlée avec la France, avec Paris. C'est une couleur, c'est un bleu, c'est un vert, c'est un rose. Ce sont des lignes en un certain désordre. Ça, c'est vite fait, parce que c'est la France. De ce point de vue, je suis toujours là. Je suis toujours ici. Je suis partout, mais partout, surtout en France et à Vitebsk. Je veux dire que ça fait le coloris, ça fait le tableau. De ce point de vue, je suis, si on peut dire, fidèle aux sources.
Ça, c'était Marc Chagall, le peintre français d'origine russe décédé en 1985 et qui nous donnait sa vision de la couleur dans une interview réalisée en 1967 à Saint-Paul-de-Vence, Caroline.
Oui, Marc Chagall qu'on retrouve au cœur de cette exposition sur la couleur dans l'art au XXe siècle au château de Waroux à Anse, c'est en région liégeoise. C'est à voir jusqu'au 17 mai prochain. Alors on va poursuivre notre visite virtuelle de cette exposition avec Jean-Christophe Hubert qui en est le commissaire. On a évoqué le fait qu'avec les impressionnistes, il y a un véritable changement dans la façon d'utiliser la couleur qui n'est plus forcément au service du sujet. J'ai donc demandé à notre invité si l'on pouvait dire que c'est l'impressionnisme qui va ouvrir la voie de l'abstraction.
Ah oui, clairement, puisque je pense l'art était finalement très, très lié au dessin et à la représentation d'un sujet. Et forcément, le mouvement qu'ils ont pu donner en disant « ben non, ce qui est important, c'est la vibration de la lumière, c'est la vibration du mouvement ben », forcément, la couleur va devenir... Elle se fait d'abord sous forme de tâche, puis elle va se faire sous forme de point, puis on va la géométriser, elle va prendre la forme de cube. Ben, tout ça suit finalement une suite assez logique. Et Vassili Kandinsky, qui est un de ces artistes qui au départ est un peintre de paysage, va un jour avoir cette idée, et c'est le deuxième espace de l'exposition, cette idée de dire, ben, tiens, finalement, on utilise la couleur de plus en plus pour sa force. Mais pourquoi un jour ne pas utiliser uniquement de la couleur pour exprimer la force d'un tableau? Alors forcément, lui, il ne veut pas faire du beau, il n'a pas cette démarche. Au départ, c'est vraiment une démarche purement esthétique, purement philosophique, de se dire, tiens, je prends la couleur, point à la ligne, et le dessin devient absent des compositions. Et alors, forcément, dans l'exposition, on insiste, avec notamment trois œuvres de Kandinsky, sur le départ de ce mouvement d'art abstrait qui va durer encore plus d'un siècle par après, encore de nos jours. Donc on veut vraiment montrer les différentes manières dont on a utilisé très rapidement la couleur.
Oui, c'est ça. Oui, parce que la couleur sera très vite utilisée pour elle-même. On pense déjà, c'est quoi, 1918, c'est Malevitch avec ce carré blanc sur fond blanc. Puis il y aura aussi Yves Klein, ce sera après la Seconde Guerre mondiale. Là, on est dans la couleur pure.
Et finalement, on voit que tous les mouvements qui vont se succéder. Alors c'est assez amusant puisque les impressionnistes ont vraiment ouvert une porte, mais on voit que tout le reste va suivre un rythme effréné d'innovation et chacun va finalement un petit peu se tracer un sillon, le but étant de ne pas toujours faire la même chose. Et alors on voit une multiplication des mouvements et une multiplication de l'utilisation de la couleur et très rapidement, je dirais une vingtaine d'années après la naissance de l'impressionnisme.
Oui, alors vous évoquiez Kandinsky et l'art, leur abstrait. Quels autres artistes on retrouve dans cette partie-là de l'expo ?
Alors là, ben, on évoque forcément dans l'art abstrait, on parle aussi de peintres belges, hein, que ce soit par exemple Georges Collignon, Paul Bury, qui sera présent dans plusieurs endroits de l'exposition.
Du mouvement Cobra. Hein.
Voilà, du mouvement Cobra. Et puis alors, très rapidement, on passe à un mouvement qui est finalement contemporain, parce que c'est assez amusant, puisque le visiteur qui découvre d'abord le post-impressionnisme, notamment avec Paul Signac, mais qui a travaillé jusque dans les années 30, on voit que finalement, quand Paul Signac fait ses Ports de France, une peinture assez classique, mais où les touches de couleurs sont assez impressionnantes, ben Kandinsky réalise ses premières œuvres abstraites. Et parallèlement à ça, l'étape suivante, c'est le mouvement surréaliste qui apparaît également à la même époque. Donc on voit que finalement, ce n'est pas une suite, c'est vraiment une profusion d'innovations qui apparaissent. Et donc le visiteur découvre après des gens comme Dali, des gens comme Chagall ou des gens comme Miro, qui là vont eux aussi prolonger la réflexion en disant on va utiliser alors là la force, je dirais, du hasard, la force psychique, le moi intérieur, et utiliser la couleur comme force pour exprimer vraiment les bases du surréalisme.
Ouais, alors vous parlez de nombreux grands noms, hein, Chagall, Miro, Dali, Signac. Qu'est-ce qu'on a l'occasion de voir dans l'expo? Ce sont des œuvres originales, ce sont des copies qui sont remises en contexte. À quelles œuvres avez-vous eu accès finalement pour cette exposition?
Donc ce sont des œuvres sur papier, donc ce soit des dessins, des aquarelles. On a également certaines toiles, mais là plutôt pour les artistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais donc ce sont toutes des œuvres originales. Et si on a alors des œuvres d'art graphique comme des lithographies, par exemple, ce sont vraiment des lithographies originales réalisées par les auteurs, signées par eux et validées par les successions.
Le promeneur qui, un après-midi, muse rue Blomet, peut voir non loin du Bal Nègre une grande bâtisse effondrée. L'herbe y pousse. Les charmilles de la maison voisine débordent par-dessus les murs et derrière une porte cochère se dresse un arbre robuste. C'est là que je connus Miro.
Oui, Paris pour moi a énorme importance aussi, c'est Rue Blomet. Rue Blomet a joué un rôle capital dans mon œuvre et dans ma vie. Il faut penser que c'est à ce moment-là, au 45 pour être très exact, Rue Blomet, où j'avais composé un maçon et j'ai fréquenté tous les poètes. Alors la fréquentation avec les poètes, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Hein? Ça m'a fait dépasser l'effet plastique pictural pour aller au-delà de la peinture. C'était très très important pour moi.
Voilà, là c'était l'artiste catalan Juan Miró, Caroline, l'un des peintres représentés dans cette exposition qui s'exprimait ici, donc un extrait du film Miró, l'homme qui a renversé la peinture, un film d'Yves de Peretti.
Oui, des extraits qui ne sont pas ici par hasard puisqu'ils sont repris dans l'exposition que nous évoquons aujourd'hui, de Gauguin à Calder, la couleur au XXe siècle, à voir au château de Waroux à Anse. Et justement, puisque nous sommes ici dans une émission d'histoire, j'ai eu envie d'évoquer brièvement avec Jean-Christophe Hubert le château en lui-même, qui est d'origine médiévale et qui était au cœur un conflit qui a duré près de 40 ans entre 1298 et 1335 entre les Awans et les Waroux. J'ai demandé au commissaire de l'exposition si l'édifice emportait encore les stigmates.
Alors c'est un château très intéressant puisque dans sa grande majorité, au point de vue de son architecture, les vestiges du XIIIe siècle sont extrêmement nombreux. Donc toute la structure extérieure par exemple a été conservée. Donc tous les murs que l'on peut voir lorsqu'on fait le pourtour du château sont des murs en silex du XIIIe siècle. Et alors, c'est un château très intéressant puisqu'il a une forme assez particulière. Hein, il est circulaire. Donc, on est vraiment dans un château médiéval caractéristique qui a été construit à l'occasion de ce conflit et qui, par la suite des différentes successions, a été la propriété de grandes familles comme les Meyraud, par exemple, comme les Warfusé. Ouais. Et surtout, est devenu la propriété au XVIIIe siècle d'un chanoine de Liège qui en a fait une de ses résidences. Et alors bon, c'est un petit château en périphérie de Liège. Et alors, chose très amusante, il l'a complètement restauré, mais en gardant les murs extérieurs médiévaux et en ne reconstruisant que l'intérieur de la cour. Et donc, vous avez un grand contraste quand vous voyez le château de Waroux de l'extérieur avec cet aspect assez austère, château fort. Et à l'intérieur, ben, vous avez l'impression d'être dans un beau château du XVIIIe siècle. Et donc voilà, c'est un cadre aussi tout aussi exceptionnel puisque les différentes pièces du château aussi ont une décoration du début du XVIIIe siècle. C'est vraiment merveilleux et un très beau parc aussi.
Oui, un très très bel édifice à voir ou pas en même temps que l'expo ou à voir à un autre moment si on le souhaite. Alors, on évoquait tout à l'heure ensemble le fait qu'il y avait des enfants, des groupes scolaires qui venaient visiter les expos qui se déroulent au château de Waroux. Qu'est-ce que les enfants retiennent par exemple d'une exposition comme celle-ci sur la couleur au XXe siècle ?
Alors l'intérêt pour eux, c'est qu'ils ont la possibilité de voir un petit peu toute la diversité des artistes et des mouvements au XXe siècle. On ne veut surtout pas faire suivre une exhaustivité qu'on ne saurait pas maîtriser. On veut seulement leur donner des pistes, des portes ouvertes pour découvrir un petit peu ces grands jalons de l'histoire du XXe siècle. Alors c'est assez amusant de leur faire découvrir que finalement, en très peu de temps, ce sont des choses complètement différentes qui sont apparues, et finalement de voir que tous ces artistes que l'on met généralement de manière successive sur une ligne du temps travaillent tous en même temps sur des sujets complètement différents, avec des manières totalement différentes. C'est assez amusant de voir un petit peu ce qui interpelle le plus le public jeune en fin de visite. Et on voit effectivement, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent parce que, avec leur âme d'enfant, ils sont plus touchés par l'un ou par l'autre.
Oui, vous évoquiez, quand je vous ai eu en ligne, Warhol, Matisse et ces collages, évidemment, qui sont assez marquants. Est-ce que c'est dans tous les cas une expo qu'il vaut mieux voir accompagnée?
Je pense que c'est une exposition qui est très intéressante à faire en famille, puisque il y a différentes grilles de lecture, et ça, c'est un petit peu la marque de fabrique du château de Warhol, c'est de faire des expositions vraiment où les enfants ont toute une série d'outils à leur disposition. Alors vous pouvez préparer l'exposition avant, il y a toute une série de choses à lire, à déjà voir. Vous recevez aussi un fichier jeu à l'entrée pour découvrir de manière ludique l'exposition. Il y a des panneaux également pour les enfants à l'intérieur de l'exposition. Et ça, c'est vraiment l'intérêt, c'est que vos enfants vont découvrir les mêmes œuvres que vous, vous avec vos regards d'adulte, les enfants avec des jeux, avec leur propre questionnement. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez amusant, puisque je dirais que dans chaque salle, on peut alors à la fin de s'interpeller et voir un peu les réactions de chacun.
Henri Matisse, dit-on, est le plus français de tous les peintres. Qu'y a-t-il donc de si français chez Matisse? La réconciliation, la sensibilité, la recherche d'harmonie, la planéité, la revendication d'une peinture décorative. Comment rendre compte de la manière dont Matisse transformait la réalité cruelle de son époque en rêve sur toile? Comment traduisait-il la couleur, la figure, l'espace? Quel est le secret de sa peinture?
J'ai un grand amour pour la couleur pure, claire, éclatante. Et je suis toujours surpris de voir de belles couleurs salies et ternes sans nécessité. Une grande conquête moderne est d'avoir trouvé le secret de l'expression par la couleur, à quoi s'est ajouté ce qu'on appelle le fauvisme. C'est donc par elle que ma toile sera toujours organisée. En peinture, les couleurs n'ont leur pouvoir et leur éloquence qu'employées à l'état pur, quand leur éclat et leur pureté ne sont pas altérés, rabattus par des mélanges en opposition avec leur nature. Il est évident que les couleurs employées à l'état pur ou dégradées avec le blanc peuvent donner davantage que des sensations rétiniennes. Elles profitent de la richesse du cerveau de celui qui leur donne la vie.
Voilà, lecture ici de propos d'Henri Matisse dans un film qui lui est consacré et qui s'intitule Henri Matisse, voyage en peinture, Caroline.
Oui, un film d'Heinz-Peter Schwerfel, sans aucune garantie quant à la prononciation. Henri Matisse, dont on peut observer donc les collages dans l'exposition qui se tient au château de Warhol à Anse, c'est jusqu'au 17 mai prochain. On le disait, ces collages marquent énormément les jeunes qui vont voir l'expo parce que, comme Jean-Christophe Hubert l'évoquait, la technique est extrêmement simple et leur semble abordable, ce qui rend l'artiste d'autant plus proche d'eux, au même titre qu'Andy Warhol, mais pour d'autres raisons, puisque là c'est plutôt à travers des produits dérivés que les jeunes le découvrent. Je vous rappelle donc le titre de cette exposition de Gauguin à Calder, la couleur au XXe siècle, et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour par là et puis en profiter pour découvrir l'histoire de ce fort joli château.
Merci Caroline, à un de ces jours.
Oui, à jeudi.